8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, tête de liste à Paris pour les élections régionales.
Bienvenue à vous et bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour, merci.
Face à l'abstention qui risque d'être tout aussi massive ce dimanche qu'au premier tour, vous aviez annoncé une campagne de communication éclair pour inciter notamment les plus jeunes à aller voter. Elle est où cette campagne ?
Ah ben, elle est déjà lancée. En fait, peut-être vous n'êtes pas présente sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes.
Non, c'est qu'elle est tellement éclair qu'on ne l'a pas vu passer, cette campagne.
Bah, pardon, vous êtes sur Snapchat, TikTok, sur les forums de jeux vidéo, de discussions de jeunes. Si oui, vous l'avez vu.
Ah, ce n'est que comme ça qu'on parle aux jeunes, c'est qu'en passant par TikTok et autres réseaux sociaux
non,
de ce niveau-là.
Vous n'êtes pas obligé d'être caricatural dès le début de l'interview, c'est absolument pas ce que j'ai dit. D'abord, le gouvernement avait lancé une première campagne pour inciter à voter et puis pour expliquer ces élections, rappeler les dates, puisque les dates, elles ont été modifiées. C'est pour la première fois un double scrutin. Départemental, régional, c'est une première historique. Il y a un millefeuille administratif, c'est pas toujours clair pour tout le monde de savoir quelles sont les compétences des départements, celles des régions. Donc il y a eu une première campagne, plusieurs centaines de milliers de personnes ont regardé les visuels, consulté les vidéos d'explication, et puis nous avons boosté cette campagne, et c'est le service d'information du gouvernement qui s'en est chargé, qui est sous l'autorité du Premier ministre, et qui a donc créé des visuels et des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, notamment dédiés aux jeunes, et sur un certain nombre de médias qui se sont engagés dans un engagement...
caricatural, Marlène Schiappa, de vous demander vraiment, c'est une stratégie envers les jeunes, c'est forcément sur les réseaux sociaux et autres TikTok, c'est pour parler aux jeunes, c'est forcément inviter des youtubeurs à l'Élysée. Moi je trouve que c'est une vraie question.
Non, pas forcément, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, mais effectivement, vous l'avez dit, l'entre-deux tours, c'est à peine 5 jours de temps de campagne, donc effectivement, on va au plus rapide. Je ne dis pas que ça va résoudre l'abstention en quelques jours, mais voilà, si d'autres ont de meilleures idées, elles sont évidemment bienvenues.
Vous dénoncez, Marlène Schiappa, l'alliance de la gauche en Ile-de-France, menée par Julien Bayou. Pourquoi alors ne pas directement appeler au vote de celle qui est la mieux placée pour battre cette alliance, Valérie Pécresse ?
Oui, on peut aussi ne jamais se présenter nulle part et puis se retirer systématiquement pour avoir des deuxièmes tours avec des face-à-face. Moi, je me suis engagée en politique avec Emmanuel Macron et avec sa démarche de dépassement des clivages. Et donc moi, je crois qu'il est important qu'au Conseil régional d'Île-de-France, on puisse avoir un groupe progressiste de la liste menée par Laurent Saint-Martin, d'élus qui sont En Marche, Modem, Agir, de la majorité présidentielle et qui soient présents.
Parce que là, vous voulez pas donner les pleins pouvoirs en fait à Valérie Pécresse en Conseil régional.
Exactement, parce que là, il y a un petit jeu.
C'est
un argument,
ça pour.
Il y a un petit jeu un peu de mauvaise foi électorale, si je peux me permettre. Valérie Pécresse fait croire qu'elle peut perdre et Julien Bayou fait croire qu'il peut gagner. Ils savent très bien l'un et l'autre que ce n'est pas le cas. Valérie Pécresse est loin devant, elle sera largement réélue, elle aura largement une majorité. La question qui se
vous
pose,
dites
c'est
qu'elle a tort de dramatiser, qu'elle est en train de jouer au jeu de la dramatisation
Je ne dis pas qu'elle a ni tort ni raison, c'est le jeu électoral, c'est ainsi, c'est la stratégie qu'elle a choisie. Moi, ce que je dis, c'est que est-ce qu'on veut laisser comme opposition uniquement justement l'extrême gauche avec LFI, Julien Bayou, etc. ou est-ce qu'on souhaite qu'au Conseil régional soient représentés des élus de la majorité présidentielle qui puissent constituer un groupe, faire des propositions, la police régionale pour la sécurité des femmes dans les transports, des salles de repos pour les livreurs, le fonds d'épargne pour soutenir les commerçants des cœurs de ville, ou est-ce qu'on souhaite simplement laisser gauche et droite, comme dans l'ancien temps, s'opposer?
Mais pourquoi elle dramatise, Valérie Pécresse? Elle dit, est-ce que, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous la rejoignez sur sa description? Elle dit que cette alliance de la gauche, elle est sectaire, indigéniste, islamo-gauchiste et décroissante. Est-ce que vous reprenez tous ces qualificatifs?
Vous me demandez pourquoi Valérie Pécresse dramatise. Moi, j'observe qu'il y a un point commun entre Valérie Pécresse et Julien Bayou, c'est que tous les deux souhaitent que Emmanuel Macron ne soit pas réélu président de la République.
Oui, ça ne nous a pas échappé.
Voilà.
Et donc,
je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, ils souhaitent entraver la poursuite de la démarche d'Emmanuel Macron de dépassement des clivages. Ils veulent entraver l'implantation de la majorité présidentielle dans les exécutifs locaux et régionaux. Et voilà pourquoi ils mènent cette stratégie.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai décrit, de ce que dit Valérie Pécresse sur l'alliance de la gauche?
Je suis la personne qui a dénoncé les compromissions de LV, à tel point que Julien Bayou a même menacé de déposer plainte contre Gérald Darmanin. Et moi, ça n'a pas été fait, et tant mieux. Mais c'est moi qui ai dénoncé le plus vigoureusement dans les médias le fait que LV voulait financer Miligorus à Strasbourg. Si on n'était pas intervenu, il leur aurait donné 2,5 millions d'euros. Organisation qui promeut l'islam politique proche des sphères d'Erdogan. Ils ont financé le CCIF à Grenoble. C'est nous, avec Gérald Darmanin, qui avons dissous le CCIF en Conseil des ministres. Donc si vous voulez, les pourfendeurs de l'islamisme au niveau national, ben, je crois que très clairement, ce sont les gens de la majorité présidentielle.
C'est pour toutes ces raisons que vous venez dénoncer que que l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, hier sur Europe 1, ici même, a appelé à voter Valérie Pécresse, tout comme l'ex-président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Ils sont donc cohérents à vous entendre avec leurs engagements.
Oui, j'ai vu qu'on était aussi allé chercher Lionel Jospin, qui lui a appelé à voter Julien Bayou. Voilà, il faut suivre.
Mais je vous parle des deux premiers. Est-ce que pour vous, c'est une gauche républicaine, une gauche de droite?
Non, moi j'ai entendu ce que disait Manuel Valls à votre antenne, et vous l'avez entendu encore mieux que moi, puisque c'est vous qui l'interrogiez. Il nous a mentionné, s'il n'y a pas de risque LFI, Laurent Saint-Martin et Marlène Schiappa sont parfaits et impeccables sur le plan de la laïcité et des valeurs de la République. Ils sont talentueux et j'appellerai à voter pour eux. Et s'il y a un risque LFI, eh bien dans ces cas-là, j'appellerai à voter pour Valérie Pécresse. Je dis à Manuel Valls, Manuel, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de risque LFI et donc vous pouvez tranquillement voter Laurent Saint-Martin et Marlène Schiappa. Mais au-delà de ça, moi je ne vais pas courir après les soutiens des anciens premiers ministres. Chacun est libre de son vote. Moi je suis très tranquille avec Laurent Saint-Martin. On a une ligne claire depuis le début. Nous, on représente la majorité présidentielle. À Paris, je suis en binôme avec Julien Bargeton, qui était dans l'équipe de Bertrand Delanoë, qui a ensuite travaillé avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris, qui vient aussi de cette gauche. Bien. Voilà, on vient de la gauche sociale-démocrate.
C'est ce qui m'intéresse. Vous êtes une femme de gauche, et vous le répétez, et vous le prouvez aussi avec des engagements. Mais est-ce que vous entendez ce que disent certains de ces anciens, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et le socialiste Jean-Paul Huchon, que ce sont des traîtres? Que pense la femme de gauche que vous êtes?
Que qui est des traîtres?
Manuel Valls, Jean-Paul Huchon, par rapport justement à ce vote de Valérie Pécresse.
Non, moi je me positionne pas comme ça. Chacun est libre de ses choix. Je vais pas commencer à insulter les gens qui expliquent qu'ils veulent pas voter pour nous. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît un peu baroque d'expliquer qu'on est de gauche, mais qu'on va voter pour une équipe dans laquelle il y a des gens de sens commun, une équipe qui est dirigée par une personne qui est allée à de très nombreuses reprises soutenir la manif pour tous, qui n'a pas fait son mea culpa sur ces sujets-là. Une équipe avec une personne qui met un signe égal entre terrorisme et immigration. Je comprends la volonté de opposé à LFI.
Parfois, le président de la République lui-même a fait un lien entre terrorisme
non,
et immigration.
Non, il n'a jamais mis de signe égal
pas
entre
égal,
terrorisme
mais il a fait
et
un
immigration.
Lien.
Non, mais c'est quand même des choses extraordinairement différentes. Donc moi, je comprends tout ça, mais moi, ce que je dis, c'est que nous, pour avoir un groupe qui porte les valeurs humanistes et les valeurs de la République, des gens qui viennent de la droite humaniste...
Mais ça veut dire que Valérie Pécresse
viennent...
n'est ni humaniste ni progressiste?
Bah, progressiste, la question se pose sur les droits des personnes LGBT+. Non, je suis désolée, l'équipe de Valérie Pécresse n'est pas claire.
Mais c'est qui délivre des brevets en progressisme aujourd'hui?
Bah, excusez-moi, si vous trouvez que c'est défendre les droits des personnes LGBT+, que de se rendre à 12
question.
Reprises à la manif pour tous, moi j'observe qu'il y a quand même une petite contradiction. Et c'est pourquoi depuis le début, nous disons que vous avez deux blocs ambigus. Vous avez un bloc ambigu à gauche qui n'est pas clair sur la question de la République, pas clair sur la question des forces de l'ordre, pas clair sur la question de la lutte contre l'islamisme, et vous avez à droite un bloc ambigu sur les droits des personnes LGBT+, qui va d'un côté peut-être saupoudrer une ou deux associations pour se donner bonne conscience, et de l'autre côté ne jamais remettre en cause les théories de sens commun ou de la manif pour tous qui s'insurgent contre le mariage pour tous.
Et entre ces deux blocs, vous êtes au milieu. J'en viens, Marlène Schiappa, aux tensions au sein du gouvernement entre les ministres. Est-ce que c'est le vernis du en même temps qui est en train de craquer?
De quelle tension vous parlez?
Oh, il n'y en a pas? Bah, dois-je les énumérer? Parce que j'ai une liste. Entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, entre Madame Elisabeth Borne et Madame Pompili. En fait, la question n'est pas de savoir véritablement de quelle nature sont les tensions, c'est jusqu'à quand ces attelages vont-ils tenir?
D'abord, moi je me suis toujours tenue à la solidarité gouvernementale. Et donc je crois que quand on a un désaccord, eh bien, il s'exprime dans des cénacles internes, on débat et ensuite il y a une ligne du gouvernement qui est définie. Et donc on est solidaire avec cette ligne, non pas par principe pour être solidaire, mais parce que c'est comme ça qu'avance un gouvernement. Sinon, c'est un amalgame d'auto-entrepreneurs et ça ne fonctionne pas. Et j'observe que l'immense majorité des ministres s'en tiennent à cette loyauté et à cette solidarité gouvernementale, et d'ailleurs quasiment l'entièreté. Et en ce qui concerne Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, moi, comme vous le savez, je crois que la franchise est une qualité assez rare en politique. Et je préférerais toujours deux ministres qui, les yeux dans les yeux, s'expriment en face à face plutôt que les gens qui sont hypocrites,
c'est
qui se font des grands sourires
de
et qui, dans le dos, vont aller
débattre. Parce que ça existe aussi, évidemment. Mais c'est très bien de se dire les choses face à face, mais jusqu'où, jusqu'à quand on va tenir Éric Dupond-Moretti fragilisé dans la défaite dans les Hauts-de-France, mal à l'aise dans les habits de politique? Est-ce que vous reconnaissez, Marlène Schiappa, qu'il a été le missile anti-RN lancé, que ça finit en pétard mouillé aujourd'hui?
Non, moi je ne vais pas ici faire le procès du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, moi je vais vous dire, en ce qui me concerne, il a toujours répondu présent, notamment sur la lutte contre les violences conjugales. On le sait peut-être peu, mais c'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui a décidé de mettre plus de fonds pour qu'il y ait davantage de téléphones grave danger, qui a décidé de déployer
les bras. d'engagement. Moi, je vous parle politiquement. Jusqu'à quand va-t-il tenir, finalement, dans une ligne qui n'est plus et de gauche et de droite, mais qui est et de droite et de droite?
Mais ça, d'abord, c'est pas vrai. Pardon, mais justement, énormément de mesures que nous mettons en place, justement, sont mises en place et ne sont pas des mesures qui sont dites de droite. Moi, quand je naturalise des milliers de travailleurs Covid qui ont été en première ligne pendant le confinement, qui étaient de nationalité autre que française, qui étaient des étrangers, qui étaient aides-soignants, médecins, pharmaciens, livreurs, agents de sécurité, qui ont gardé des enfants et que je souhaite naturaliser pour qu'ils acquièrent la nationalité française, je ne suis pas sûre que la droite ou la droite extrême
ne l'entend pas cela. Est-ce que c'est aussi de votre responsabilité, vous, femme de gauche, on n'entend pas
alors
ces mesures-là?
C'est la première fois qu'on me dit que je ne communique pas assez. Voyez-vous,
peut-être que vous communiquez trop sur la droite.
Je ne crois pas. Donc ça fait partie des mesures que j'essaye de faire entendre. Mais l'ouverture de la PMA...
Ah, vous reconnaissez, vous dites essayez de faire entendre.
Mais écoutez, en fait, tout ce qui est positif, vous savez très bien que ça résonne peu dans les médias. J'ai créé une grande cérémonie qui s'appelle les prodiges de la République, où j'ai récompensé des jeunes qui ont mené des actions incroyables de fraternité et de solidarité. Vous savez combien il y avait de journalistes au lancement de cette cérémonie? Zéro. Personne n'est venu. Il y a
mais
pas
c'est
eu
l'occasion
un communiqué
d'en parler aujourd'hui. Vous
quand
voyez
on crée un slogan sur un meeting, ça passe en boucle pendant 48 heures sur les chaînes d'infos en continu. Quand on récompense 1000 jeunes méritants et qui méritent d'être mis dans la lumière, eh bien, il y a personne.
Il faut le souligner. Mais puisque vous parlez de slogan, le slogan des marcheurs, c'était, vous en souvenez, Marlène Schiappa, faire de la politique autrement. Je me dis, vous auriez dû faire de la politique comme les autres, vous auriez au moins un vrai parti. Bon, ça vous fait
vous
sourire ce matin.
Oui, ça me fait sourire parce que voilà, c'est drôle.
Parce que c'est vrai
Non, on peut avoir aussi de l'autodérision, ça n'est pas interdit. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, oui, on a voulu faire de la politique différemment, et notamment en dépassant les clivages, en considérant les idées, justement, pour répondre à la question précédente, de façon pragmatique et lucide. Une bonne idée, c'est pas forcément une idée de droite ou de gauche. Quand on dédouble les classes dans les CP, les CE1, dans les quartiers difficiles, je sais pas vous dire si c'est de droite ou de gauche, je sais vous dire, en tout cas, que c'est mieux pour les enfants qui sont, du coup, moins dans la classe et qui sont plus à disposition. Quand Elisabeth Borne met en place le plan Un jeune, une solution et développe l'apprentissage pour que tous les jeunes puissent trouver leur voix, leurs compétences, leurs talents, le faire s'exprimer et puis avoir un vrai métier et un vrai salaire, je ne sais pas vous dire non plus si c'est de droite ou de gauche.
Bon, voilà, on parle des vrais sujets aussi, des actions positives, évidemment.
Absolument.
Ça arrive que les journalistes les mettent en avant. Merci.
Mais j'adore les journalistes. Tout va bien.
Oh bah dis donc, quel éloge, quelle déclaration. Merci Marlène Schiappa en tous les cas.
Vous.
Bonne
Merci
journée à vous et bonne journée évidemment à nos auditeurs.